La musique, c'est le langage de l'indétermination, parce qu'elle conduit avec elle plusieurs lignes de sens, sans nous obliger à choisir, n'est-ce pas ? Elle exprime et n'exprime pas, elle exprime des tas de choses ensemble, ou bien elle n'exprime rien, comme vous voudrez. Donc c'est une expression équivoque, multivoque, n'est-ce pas ? Et pas simple. Et par conséquent, qui ouvre la carrière, qui ouvre un horizon indéfini pour nous. Elle n'exprime jamais un ceci ou cela, n'est-ce pas ? Jamais l'un ou l'autre, mais souvent les deux ensemble. C'est le propre de la temporalité, c'est le temps qui est comme ça. Mais enfin, tout de même, l'espace est lié au temps et joue un grand rôle, et c'est pourquoi la nostalgie à l'état pur concerne le temps, mais elle concerne aussi un autre pays, un ailleurs, n'est-ce pas ? Il y a deux choses dans la nostalgie, le jadis et l'ailleurs. Le jadis, c'est la nostalgie du temps, d'un temps révolu, et qui jamais plus ne sera, tout au moins sous la forme où je l'ai vécu. Et l'ailleurs, c'est une autre nostalgie, plus guérissable, plus facile à soigner, par le biais de retour, par l'aller-retour. Ça existe, l'aller-retour, n'est-ce pas ? Naturellement, il y a eu toujours des nostalgiques, j'en suis persuadé, mais au XIXe siècle, les nationalités prennent conscience de leur originalité, de leur spécificité, à la faveur des bouleversements, des révolutions plus ou moins manquées, et qui commencent à fabriquer en Europe des générations d'exilés, d'émigrés, de proscrits dans toute l'Europe. Et la musique est naturellement leur langage.
D'abord la guitare, ensuite le violoncelle, et après les deux ensemble, ou est-ce qu'on démarre direct ensemble ? Ensemble, ok.
Bonjour à toutes et à tous. Toute cette semaine, les nouvelles vagues seront musicales. Aujourd'hui, Pedro Soler et Gaspard Klaus depuis le studio 110 de la Maison de la Radio, comme depuis une cabane en crin de cheval islandais, en mots muets de Garcia Lorca, en chant profond du vent. Ces sonorités noires sont le mystère, les racines qui s'enfoncent dans le limon que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais nous, d'où nous vient ce qui a de la substance en art ? Des sonorités noires, a dit l'homme populaire d'Espagne et il a rejoint en cela Goethe, qui donne la définition du duende à propos de Paganini en disant « pouvoir mystérieux que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique ». À la guitare, Pedro Soler et au violoncelle, Gaspard Klaus. Je vous laisse l'un et l'autre me rejoindre à la table. Le temps de dire qu'est sorti ces derniers mois le disque Alviento sur le label Infine. La pochette est une image carrée de Bernard Plossu, l'angle bas droit seulement est noirci de roches. tandis que le ciel crème emplit quasiment le reste de l'image, et ce reste de l'image n'est zébré en haut à gauche que par la silhouette d'un oiseau, c'est dire s'il y a de l'espace pour l'écoute. Vous signez à deux, 6 des 7 morceaux enregistrés entre l'Espagne et l'Islande. C'est le deuxième rendez-vous que vous vous donnez pour un disque. Le premier, vous avez emmené à New York en 2011. Bonjour à tous les deux et bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Marie.
Alors je vous disais que sur cette sur la pochette de disque, c'était une image, peut-être recadrée d'ailleurs, d'une image de Bernard Plossu. Et derrière, il y a les titres des morceaux, avec entre parenthèses des précisions en noir, qui sont des précisions qui nous rattachent à une tradition. À quoi correspondent ces précisions en noir? Alors je n'oserais les prononcer mal, mais il y a Malaguena, Buleria. Qu'est-ce que c'est que tout ça?
Tu veux? Je ne prononce pas mieux, on
ça
va laisser Pedro nous expliquer les styles.
Mais Malagueña et Buleria, tout ce qui est écrit, ça, en réalité, ce sont les styles flamencos, comme nous avons la valse ou le tango, suivant les régions. Malagueña, c'est de Malaga. Et puis, pour le disque, c'est une... on donne un titre, ben c'est plus une question de SACEM, disons.
C'était mais, important de...
Mais en réalité, on donne aussi le climat, disons.
Oui, c'était un peu. Et puis, vous êtes très nombreux dans le flamenco à jouer des malagueñas. Elles ont chacune leur identité et leur, ouais, et leur approche. Et donc, ça identifie notre façon d'aborder ce style.
Ça veut dire qu'à chaque fois, pour chacun des morceaux, vous avez discuté de la manière dont vous vouliez entrer dans cette danse, entrer dans ce style?
Ça se passe pas mal par la discussion au début. On aborde un nouveau style. Il en reste encore qu'on n'a pas abordé. On n'a pas joué de Soléa. Il y en a quelques-uns. Et on commence par parler. Pedro me joue l'état de ses recherches sur ce style. Et puis ensuite, on écoute. On écoute des vieux enregistrements. Et puis de plus récents, mais surtout de vieux enregistrements, parce que ce sont celles-ci qui font référence... pour Pedro. Et ensuite, on démarre un travail de ping-pong, un peu, où il fait une proposition, je lui réponds, les choses se construisent. Et en fait, c'est très étrange. Quand on joue aujourd'hui, j'ai pas un souvenir très acéré de la façon dont le morceau s'est écrit. Je crois qu'il s'écrit, il continue de s'écrire aussi à force de le jouer.
D'ailleurs, c'est pas pour tous les morceaux pareil. Hein. Enfin, on dit morceau, ouais, très bien, morceau. Il y en a qu'on a décidé de travailler. On a dit, on va faire, mettons, la petenera, et on a travaillé, on s'est mis dessus. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus petit à petit sans qu'on s'en rende compte.
D'ailleurs, la petenera, si je me souviens bien, on a décidé de le jouer un quart d'heure avant de monter sur scène, la première fois qu'on l'a joué, à Chamonix. Ça se passe aussi parfois comme ça. Pedro est mon père, et j'ai entendu sa musique depuis l'ontogénèse, depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Et donc il y a une familiarité avec cette musique, pas de science de mon côté. Et de temps en temps, je lui dis, mais tu sais ce morceau où tu chantes, où tu joues, ta-ga-da-da, 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 j'ai ça dans les oreilles, je sais pas à quoi ça correspond. Il me dit, c'est la petenera. Et là, on essaye.
Pour moi, c'est un peu différent, n'est-ce pas? Parce que, j'ai 78 ans, si tu veux, c'est pas seulement un chiffre. Et j'ai travaillé avec des personnes qui sont mortes depuis trop longtemps, qui auraient 140 ans, maintenant, un truc comme ça. Donc, le style très ancien du flamenco. Et pendant toute une vie, j'élabore ma façon de jouer ces choses-là. Gaspard a entendu ça, comme il dit, tout le temps. Et moi, j'ai toujours accompagné, parce que c'est ça notre vrai travail, accompagner le chant et la danse. Et quand je joue un morceau, j'ai les chants dans la tête. Et a priori, le violoncelle, pour moi, prend tout à fait très bien la place d'une voix. Et le violoncelle de Gaspard, particulièrement, avec son côté rock et dur, comme ça, ou très, très fin. Donc, Gaspard rentre là-dedans. Au moment où moi j'attendrai un chanteur, Gaspard rentre, et en général, il fait pas du tout ce que j'attendais. Et c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'il essaye pas de reproduire un chant, parce qu'il reprend l'esprit du chant, l'esprit, les tensions, la respiration, et l'intention du chant finalement, sans faire les notes que fait un chanteur qui sait pas ce qu'il fait.
Mais c'est vraiment une imprégnation, on s'imprègne.
Voilà. Et ça se fait que ça sort comme ça, quoi.
Si bien qu'on a l'impression, en écoutant, qu'il y a comme des fantômes de chant ou des fantômes de danse qui sont dans ce disque. Je disais qu'il y a beaucoup d'espace pour l'écoute, mais il y a aussi beaucoup d'espace pour ce qui n'est pas là et qui est quand même là et qui persiste.
Ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que il faut que ça soit comme ça. C'est pas une musique qui est... Il y a plus que ça, il y a plein de fantômes, hein. comme tu as dit avec Lorca.
Il y a des fantômes dans nos instruments qui ont été joués par d'autres avant nous. Et ces autres musiciens ont laissé des traces. Il y a des fantômes dans les notes qu'on s'abstient de jouer, mais qui sont quand même là quelque part. Il y a Dino Saluzzi, le bandoneoniste. En écoutant sa musique, j'ai appris beaucoup là-dessus. Il joue pas un tiers des notes de ses phrases, et pourtant elles sont là et elles circulent et elles font de la musique.
Parce que quoi? Parce qu'il les pense, elles sont là parce qu'elles vont presque jusqu'au doigt ou elles vont presque jusqu'au jeu et elles s'arrêtent avant qu'elles ne sonnent.
Ouais, elles sont senties, elles sont pas assénées, elles ne sont pas vulgairement dites, elles sont quelque part en suspension. Et elles construisent la phrase.
Une fois, un critique, je sais pas où, a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Il disait que quand il entendait démarrer un morceau, il avait l'impression que moi je le jouais depuis longtemps et qu'il venait avec moi à un moment donné de, et ça correspond un peu à ce que je ressens moi. C'est-à-dire, je commence à jouer quelque chose, mais en réalité, je le reprends à ce moment-là, tu vois. Et ça m'a beaucoup touché qu'il ait senti ça.
En écoutant le disque Alviento, moi je pensais à ce que dit très souvent un violoncelliste japonais, cette fois-ci, qui s'appelle Sakamoto Ryomichi, et qui dit que quand il joue une note, en fait il s'en souvient. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il entend une note, mais en fait il s'en souvient, il la reprend, comme si c'était un chant qui courait à côté de lui, ou qui vibrait déjà à côté de lui, dans lequel il revenait d'une certaine manière se mettre comme une rivière.
Parfait. Moi je pense que... On ne crée pas la musique, on la retrouve, tu vois. La musique, elle est, Gaspard particulièrement, parce qu'il est, le vent, n'importe quoi, est musique pour lui, donc on va la chercher. C'est difficile à expliquer, tu vois. Mais j'ai pas l'impression de créer un son, de créer quelque chose, j'ai l'impression de redécouvrir quelque chose.
Et pour vous, Gaspard?
Il y a une présence de la musique, je pense, permanente, constante, et qui peut parfois être révélée, émergée, parce qu'on décide de la jouer, mais parce qu'on décide de l'écouter. C'est-à-dire, ce ne sont pas seulement les musiciens qui peuvent faire du monde de la musique. C'est n'importe quel être écoutant qui a cette approche-là. Mais je pense, avec l'histoire de fantômes et de cette absence à mettre en présence, je pense à la radio, tout bêtement, et il y a des milliers de voix et de musiques qui sont là dans l'air. Et si on allume le récepteur et qu'on se met sur la bonne fréquence, on les entend. Elles sont tout de même là. Il y a quelque chose qui se trouve un peu au-delà de soi. Et pour moi, il y a un grand inconnu dans la musique. Je ne sais pas si c'est du souvenir, parce que j'ai plutôt la sensation... la musique est là quand on touche une chose qu'on n'a jamais touchée encore. Ça, c'est ma quête.
De toute façon, je pense vraiment que pour un musicien, enfin pour moi en tout cas, il y a deux choses. Il y a les notes, la note d'abord, puis les notes, les suites de notes avec les espaces, avec les silences entre les notes, enfin tout ce qui... Et puis la musique, c'est encore une autre affaire. On peut faire plein de notes sans faire de la musique. Et on entend beaucoup. Et on peut justement laisser couler la musique avec presque rien. Donc pour moi, les notes, les phrases musicales et tout ça, avec le rythme, l'harmonie, tout ça, c'est juste un récipient. C'est juste un récipient qu'on... Et alors là, c'est là où il faut travailler comme une bête, la technique, pour que ça permette le duende, justement. Mais après, la musique, c'est une autre affaire. Je pense.
Est-ce que ça a à voir, je disais en introduction, que ce disque-là, sa géographie, ce serait un peu d'Islande, un peu d'Espagne et plein d'autres choses. Le précédent, c'était un peu de New York et plein d'autres choses. Est-ce que vous pouvez me parler de ce lieu qui est écrit en tout petit à l'arrière du disque, qui s'appelle Greenhouse? C'est quoi cet endroit?
C'est un studio prestigieux qui se trouve à Reykjavik, en Islande, dans lequel sont passés Bonnie Prince Billy, Björk et énormément d'autres grands noms, et auquel on a eu la chance d'être invité à enregistrer quelques jours. il y a un an. On cherchait un endroit un peu particulier. J'avais peur de me retrouver en Andalousie, dans un environnement très flamenco. J'aime beaucoup les contrastes. C'est peut-être un peu littéraire, mais il y a du feu dans le flamenco. Et en fait, il y a aussi du feu en Islande. Il y a beaucoup.
Et comment?
Oui. Il n'a pas la même présence. Il n'est pas dans le ciel, il est sous terre. Et on voulait tenter ça. Puis on est parti avec, comme à New York il y a 4 ans d'ailleurs, on est parti avec ma mère. On s'est promené, on a vu le pays, on a senti la température, on a vu une autre lumière. On s'est un peu désaxé. Et c'était ce qu'on recherchait.
Gaspard, je viens de penser, là, pendant que tu parlais, excuse-moi, à Inès Bacan, une grande chanteuse flamenca avec qui on a fait un disque. Dans un de ses chants, elle dit « El frío me quema y el hielo ». Enfin, la glace, non, el hielo. La glace me brûle et le feu me gèle. C'est pour parler de quelqu'un qui est complètement perdu parce que sa femme l'a quitté, je crois, ou un truc comme ça. Et c'est exactement...
Cet endroit des contrastes.
Ouais, c'est ça, oui. Le feu qui gèle et la glace qui brûle, tu vois. Mmh. D'ailleurs, on a cette sensation aussi si on te passe un bout de glace dans le dos.
C'est brûlant.
T'es brûlé, oui. Mmh.
Voilà un titre qu'on ne trouvait pas à l'époque. Hein? On cherchait un titre pour ce disque.
Oui, c'est vrai.
Ça ne nous est pas venu.
Et finalement, c'est plutôt le vent. Je vais vous laisser rejoindre vos instruments et peut-être nous interpréter 3 morceaux de ce disque Al Viento.
Avec joie.
Allez. OK. Mm-hmm.
Et voilà pour commencer, Grainaina, un premier extrait de ce disque Al Viento, Pedro Soler, à la guitare et Gaspar Clos au violoncelle.
Thank you.
un second extrait de ce disque Al Viento depuis le studio 110 de la Maison de la Radio. C'est une Serranía, je ne sais pas si on dit comme ça. Serrana, Gaspar Claus et Pedro Soler. On vous écoute pour un dernier extrait.
Thank you.
Gaspard Claus et Pedro Soler, je vous laisse revenir à la table avec moi. Vous disiez tout à l'heure, Pedro Soler, que vous avez joué avec beaucoup de monde et des gens qui sont morts et qui auraient 140 ans maintenant. Quant à vous, Gaspard Claus, vous avez aussi joué avec beaucoup de monde et des gens qui sont vivants et qui n'ont pas encore 140 ans. Et c'est le fait que vous ayez joué l'un et l'autre avec des personnes si différentes et qui appartiennent aussi à des histoires et à des champs musicaux si différents, qu'est-ce que ça fait de se retrouver peut-être à un endroit qui est peut-être plus un endroit de connaissance pour l'un et pour l'autre ? À savoir, tout de même, père et fils.
En fait, souvent, il y a des rapports de père et fils qui travaillent ensemble, qui sont aussi des rapports de maître à disciple. Et ça ne s'est pas vraiment passé de cette manière-là entre nous, parce que j'ai fait mon chemin tout seul, avec mon instrument, avant de retrouver mon père. Et on a énormément à s'apprendre mutuellement, je crois. Enfin, je me permets de le dire, parce que c'est ce qu'on se dit entre nous.
Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est ça.
On est donc sur un pied de véritable rencontre de musiciens et on a mais on a quand même, je pense, un territoire commun.
C'est de la musique.
Un héritage qui, enfin moi, je ressens un héritage qui n'est pas le flamenco, qui n'est pas une science, qui n'est pas un apprentissage. Et pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, nous ne sommes ni l'un ni l'autre de grands techniciens, par exemple. Et il y a une beauté dans ça parce qu'il y a une fragilité, mais il y a aussi un danger qui va, je pense, m'accompagner toute ma vie parce que je sais que j'hérite ça de mon père. Mais cette même chose s'accompagne d'un amour du son et de la et du temps de vie d'une note et de ces choses auxquelles on est l'un et l'autre très attentif. Voilà. Donc pour le meilleur et pour le pire, il y a des choses qu'on a en commun.
Tout à l'heure, je disais que quand je préparais parfois l'entrée pour un chanteur, c'est ce que nous faisons, et à ce moment-là, c'était le violoncelle qui rentrait et qui me portait quelque chose que je n'attendais pas du tout. Et ça, c'est ce qui fait que entre Gaspard et moi, il m'apporte autant que je lui apporte, vraiment. Si tu veux, on s'apporte des choses différentes. Ou peut-être plus, j'en sais rien. T'es d'accord ?
Je suis d'accord.
En tout cas, il m'apporte autant dans ce sens qu'il va dans un univers. Le flamenco, les chanteurs flamenco, c'est pas le flamenco de Mignon, de Salon, mais le flamenco, quand tu l'entends, c'est très hard. Moi, je pense qu'un gars comme Jimi Hendrix est très flamenco. Tu étais très, très flamenco. Tu vois, cette espèce de cri. Le flamenco, c'est un cri. Et Gaspard, il fait ça à sa façon. Mais c'est ça qu'il donne. Il donne l'essence du flamenco.
Quand arrivent vraiment les voix sur le disque, ce sont les voix ou la voix de Matt Elliott, et qui arrivent d'ailleurs comme un seul homme, mais comme mille hommes, tellement ils sortent, composent une sorte de chant massif lui aussi, qui grossit, qui grandit. Comment est-ce que vous avez conçu ensemble, d'ailleurs avec un autre guitariste, ce morceau-là ?
Matt est donc l'autre guitariste, Serge Tessoguet, avec qui j'ai travaillé l'été dernier sur un autre projet, et Pedro est venu nous écouter, et après le concert, au dîner, Pedro est littéralement tombé sur Serge et lui a dit « Mais ce que tu fais, c'est flamenco », Serge est donc à la guitare électrique, et tu viens enregistrer un titre avec nous cet été. Et Sergio n'a pas eu trop le choix, je crois qu'il était content, il a pris un train, il nous a fait ce cadeau-là de venir en Espagne, c'était la session espagnole, enregistrer un morceau qui s'est passé un peu comme cette rencontre avec Bryce Zessner et Sufjan Stevens sur le premier album. C'était un moment musical qui dure 12 minutes, là, je crois. Et c'est vraiment 12 minutes qu'on a enregistré tel qu'on peut les entendre là. Et Matt Elliott, je lui ai demandé s'il voulait bien ajouter des voix sur ce morceau pour deux raisons. Il a une oreille... musical espagnol, je crois. Moi, j'écoute Matt Elliott depuis mon adolescence et j'aime beaucoup ce chanteur. Et ses voix, ses multiples voix, j'ai toujours l'impression avec Matt Elliott d'entendre des marins
qu'il est plein.
Sur un bateau éperdu au fin fond de l'océan qui est dans ses derniers jours de survie. Et j'ai toujours cette sensation-là. C'est un marin pour moi, Matt Elliott. Et donc, il est venu à Paris pendant la session de mixage. Et il m'a vraiment impressionné parce que je lui avais donné champ libre pour rajouter quelque chose sur ce morceau. Et il a écrit un texte très dur, Je pense qu'il a dû avoir une belle déception amoureuse quelques jours avant, ce qui a été notre chance, mais très beau. Et il a ajouté les airs que Pedro jouait au violoncelle, puis ceux que je jouais à la guitare, mais avec une précision
ou
et une justesse.
Que Pedro jouait à la guitare.
Moi, je le connais pas.
Non, oui, j'ai dit l'inverse. Oui, donc,
que Pedro jouait à la guitare et que vous jouiez au violoncelle.
Tu sais, quand j'écoute cette plage là du disque, j'ai l'impression que la voix, pour moi, c'est le violoncelle, et lui, c'est un instrument. Il a une voix tellement profonde, grave, et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une basse continue, un continuo, c'est magnifique. Mais je l'ai jamais rencontré. On s'est envoyé un mail en disant qu'on était très contents. Mais c'est lui qui a ajouté ça, grâce à Gaspard. Et moi, j'étais un peu surpris, enfin, bon, je lui ai fait très confiance.
Juste pour terminer, parce que vous disiez en revenant de ce moment musical que vous n'aviez ni l'un ni l'autre de science, de technique, vous parliez, Gaspard, de la science du flamenco, est-ce que c'est pas ce qui nous permet à nous, qui ne maîtrisons pas non plus cette science-là, d'ailleurs peu la maîtrise, d'avoir cette place? Je disais que ce disque laissait beaucoup de place pour l'écoute, beaucoup d'espace pour l'écoute. Est-ce que c'est pas la place que vous nous faites?
Je disais que je n'ai pas hérité d'une science, mais cette science, Pedro, Pedro la travaille. Je parle de la science du flamenco. Il y tient énormément et il est très important que ces morceaux soient justes en termes de structure dans le flamenco. Donc je me glisse dans ce carcan que Pedro construit et dans lequel on peut naviguer en grande liberté. Mais après, oui, les concerts qu'on donne, par exemple, c'est très impressionnant comment il nous arrive de faire des morceaux que moi je ressens laborieux. Je sais pas comment on va arriver au bout de ce morceau parce que il y a tellement d'écueils et tellement de dangers et on arrive à la fin et ça dure longtemps et on a eu peur. Et les applaudissements, la façon dont le public se lève, ou je me dis, ils sont aussi soulagés que nous qu'on soit arrivé à la fin de ce morceau et ils ont souffert avec nous et en même temps ils ont aussi finalement jouer avec nous. Et je crois effectivement que c'est aussi parce qu'on n'est pas hermétique.
Moi, j'ai une dernière chose à te dire, c'est que Gaspard parle de risque. Et il y a une chose toujours que j'admire énormément. En tennis, les tennismans, ils ont le droit à deux engagements. Un engagement où ils mettent toute la gomme. Et c'est criminel quand ils le réussissent, c'est fabuleux. Et puis s'ils le ratent, c'est pas compté, ils en font un gentil. Et nous, on met toute la gomme et c'est pour ça moi qui n'ai pas une technique infaillible, loin de là, je mets toute la gomme et des fois je mets à côté quoi. Mais et puis j'en ai pas d'autre à part pour l'enregistrement.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
Et comme tous les jours, à cette heure-ci, on écoute quelqu'un nous confier, nous raconter un moment important pour lui. Cette semaine, c'est la traductrice Sika Fakambi.
Parler caméléon, c'est l'expression que je me suis trouvée pour dire ce que c'est que l'usage des langues en Afrique de l'Ouest, où j'ai grandi, au Bénin, et qui est le fait que chacun parle à peu près, enfin au minimum deux langues, sinon trois ou quatre, et dans sa vie courante, passe d'une langue à l'autre sans même y réfléchir, suivant la personne qu'on a en face de soi et le rapport qu'on a avec cette personne. Non seulement on change de ton et de manière de parler, mais effectivement, on passe de sa grand-mère à sa tante et on peut changer de langue aussi. Et ensuite, on va à l'école, on parle français. Et à l'école, on parle français d'une certaine manière dans la cour de récréation avec ses amis et d'une autre manière à ses professeurs. Voilà, pour moi, c'est ça, le parler caméléon dans lequel j'ai eu l'impression de grandir et que j'ai retrouvé dans certains textes. C'est essentiel dans ma manière, même aujourd'hui, de traduire les textes. Je pense que je suis toujours là-dedans, dans ce plaisir-là que j'avais, dans cette jubilation que j'avais à prendre conscience du passage d'une langue à l'autre et de toutes les identités que ça pouvait me donner à moi aussi. Quand je traduis un texte qui est écrit par un auteur qui fait ça très bien, comme par exemple ce Ghanéen que j'ai traduit il y a quelques temps, Nee Parks, je retrouve ça vraiment, et je sais que c'était sa jubilation à lui aussi, qui a grandi à Accra, à deux frontières du Bénin. Et dans la traduction d'un autre texte nigérian, enfin une série de textes que j'ai traduits récemment, dans la plupart des nouvelles, et dans certaines un peu plus que d'autres, ce plaisir-là, oui. Alors j'ai apporté un extrait de ce dernier livre que j'ai traduit, qui s'intitule en anglais « Love is power or something like that » et en français « Love is power » ou quelque chose comme ça. Et donc il y a vraiment particulièrement dans ce recueil un texte hilarant qui est pile ce que j'aurais eu envie de réussir à faire quand j'écrivais dans mes carnets. Et je vais en lire un petit bout. Le problème de ma bouche qui sent. Je suis partie chez le dentiste aujourd'hui à cause du problème de ma bouche qui sent. Et après, quand la femme docteur a dit « Faites ah !» Elle a écrit quelque chose sur son cahier Yemkem et elle a dit que j'ai halitose. J'ai pratiquement uriné dans mon caleçon quand j'ai entendu le grand mot là. J'étais sûre que ça allait être une sorte de cancer très grave. Mais lorsqu'elle a dit que je devais brosser ma denture deux fois par jour et manger fruits trois fois par jour et boire copieusement de l'eau chaque jour... J'ai commencé par suspecter que son grand anglais là, c'est trop grand pour la chose qui me fait ça. Donc, je lui ai demandé, est-ce que ça va me tuer? La femme m'a regardé comme si ce n'était pas une personne adulte qu'elle voyait devant ses yeux. Mais moi-même, je lui paye l'argent, non? Et je connais ce qui est mon droit. Donc, j'ai demandé, qu'est-ce que ça signifie même halitose? La bouche qui sent, c'est ça que ça signifie. Donc maintenant... Il faut me laisser, je vais vous expliquer la raison pourquoi je suis partie chez le dentiste aujourd'hui. Thank you.
Un dernier extrait de ce disque Al Viento, paru sur le label In Fine. Un grand merci à vous, Gaspard Klaus et Pedro Soler, d'avoir été avec nous. Vous serez en concert le 6 août à la distillerie de Narbonne, le 25 août à Collioure, le 11 octobre au Coconut Festival à Saintes, le 8 novembre à Mélan et le 9 novembre à Lyon. Les Nouvelles Vagues se réécoutent et ce podcast sur franceculture.fr. Elles sont imaginées avec Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon et réalisées par Somanina. À la technique aujourd'hui, Bernard Laniel et Jean-Benoît Tétu. On se retrouve demain même heure. Dans un instant, Mathieu Garrigou-Lagrange et la littérature.